Soufflé par mon invité de ce matin, cette archive sur laquelle vous êtes peut-être déjà tombé, au hasard d'une errance sur la toile, d'une chronique de Thomas Legrand ou d'une alerte sur votre portable, tablette ou ordinateur, cette archive télévisuelle de 1985 où Marguerite Duras s'est interrogée sur l'an 2000 et prophétise le débordement d'informations, justement la submersion de l'information par les écrans. Elle dit « Je crois que l'homme sera littéralement noyé dans l'information, dans une information constante, sur son corps, sur son devenir corporel, sur sa santé, sur sa vie familiale, sur son salaire, sur son loisir. C'est pas loin du cauchemar. Il y aura plus personne pour lire. Ils verront de la télévision. Il y aura des postes partout. Où sera-t-on tandis qu'on regarde la télévision? On n'est pas seul. Tout sera bouché. Tout sera investi. » Mais elle va plus loin, Marguerite Duras, dans sa parole prophétique, elle imagine la suite, la résistance et le salut. Elle dit « Il restera la mer quand même, les océans et puis la lecture. Les gens vont redécouvrir ça. Un homme, un jour, il lira et puis tout recommencera. On repassera par la gratuité. C'est-à-dire que les réponses à ce moment-là, elles seront moins écoutées. Ça commencera comme ça, par une indiscipline, un risque pris par l'homme envers lui-même. Un jour, il sera seul de nouveau avec son malheur et son bonheur. » Mais qui lui viendra de lui-même. C'est fou quand même.
Boomerang, Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Comment mon invitée d'aujourd'hui résiste-t-elle au tout info? Elle est romancière, membre de l'Académie Goncourt, prix qu'elle remportait il y a 21 ans. Pour Confidence, une anthologie de son œuvre paraît dans la collection Quarto de Gallimard, sous le titre Mes Afriques. On y retrouve certains de ses romans les plus marquants, comme Oregano, La fille du gobernator ou C'est fort la France. Elle nous parle d'un passé à ressusciter, d'une enfance troublée et de l'exercice à la fois nécessaire et désespéré de l'écriture. Bonjour Paul Constant.
Bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être là.
Merci
ce matin. Quelle réponse est-ce que la romancière que vous êtes trouve face à l'information qui nous submerge?
D'abord la fuite, vraiment se protéger absolument, éteindre les écrans et puis se protéger dans le livre par la lecture ou par l'écriture.
Comme Marguerite Duras.
Ah oui, ce texte de Marguerite Duras, non, ce qu'elle dit avec ce phrasé si particulier, comme si elle cherchait les idées au fond d'elle-même pour les exprimer, le contraire d'un phrasé oral. C'est exactement comme si elle était en train d'écrire et de chercher. Et à ce moment-là, elle devient prophétique. Il y a eu quand même quelques crétins pour se moquer d'elle à son époque. Et on se rend compte comme tout chez Marguerite Duras, tout est exact de la littérature à sa vision du monde.
Qu'est-ce que cette submersion d'informations, Paul Constant, comme vous l'appelez, nous dit de l'époque dans laquelle nous vivons?
Que nous nous fuyons, que nous sommes toujours ailleurs, en avant, et que nous ne revenons plus à nous-mêmes, au cœur de nous-mêmes, nous regardons plus. Or, c'est par le livre qu'on peut se regarder, non pas pour se distraire de la vie, mais pour revenir aux fondamentaux d'un être humain, de soi-même. Lire, ce n'est pas courir à travers un livre, ce n'est pas lire un livre dans la nuit ou en 3 heures et dire ensuite « Ah, c'est merveilleux, le livre m'a plu, je l'ai fini ». Non, lire, c'est prendre des phrases, les trouver bouleversantes, s'arrêter, réfléchir et voir ou entendre l'écho des phrases en soi-même.
Vous l'aimez, notre époque, notre présent?
Il m'amuse. Il m'amuse beaucoup parce que je suis très spectatrice, j'ai toujours été. Je suis très peu active, donc tout ce que je peux regarder, je le regarde. Et il y a quelques jours, je changeais de téléphone. Je n'avais pas changé de téléphone depuis 10 ans.
Allons donc.
Et donc, je suis allée dans une boutique téléphonique et je ne comprenais pas le langage et je ne voyais pas les nouveaux personnages qui sont des jeunes gens très très bien coiffés et des jeunes filles qui ont des nouveaux sourcils. Et ils étaient comme des poissons dans un aquarium. Ils bougeaient. Et moi, j'étais assise sur ma chaise. Et donc, je n'ai pu choisir que la couleur du téléphone parce que tout le reste m'était inconnu. J'étais dans un nouveau monde.
Vous en parlez très peu, pourtant, du contemporain dans vos livres. Quand est-ce que vous avez compris que votre histoire, celle de vos parents plutôt, faisait de vous, pour reprendre vos mots, Paul Constant, la dépositaire d'une histoire à ressusciter?
Eh bien, la plupart du temps, les gens vous racontent leur propre histoire et il faut y adhérer. Dans ma famille, il y avait une saga qui se créait autour de la figure de mon père, qui était une sorte de héros, à la fois médecin, littéraire et guerrier. Et à un moment donné, il faut reprendre ses cartes et il faut dire non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas vécu ça. Le guerrier était un bourreau. Le grand écrivain n'avait jamais publié de livre. Et le médecin avait peur de la maladie. Et à ce moment-là, il faut une force terrible pour se dire je me détache de vous et je deviens un écrivain qui va raconter son histoire, ou peut-être la vraie histoire, mais il n'y a pas de vraie histoire. Je raconte mon histoire. Et à ce moment-là, il faut avoir le courage d'être banni de la famille, voilà.
Alors c'est ce que racontent en creux ces livres que vous avez choisi d'intégrer à cette anthologie intitulée « Mes Afriques ». Que nous dit ce pluriel « Mes Afriques », Paul Constant ?
« Mes Afriques », c'est le titre formidable qu'ont trouvé mes éditrices, parce que je ne voulais pas du tout dire que j'étais un auteur africain rentré dans la compétition, j'ai une vision de l'Afrique, je la connais mieux que vous, etc. Non, mes Afriques, ça s'est passé en Afrique, ça s'est passé sous un certain climat, avec certains animaux, ça aurait pu se passer ailleurs. C'est une histoire intérieure, c'est l'histoire d'une enfant bouleversée, d'une enfant agressée, et qui, voilà, je suis un peu bouleversée en le disant.
Tente par tous les moyens de s'en sortir, oui. Et en particulier par l'écriture. Ce qui est passionnant, c'est qu'à travers le pluriel de ces Afriques, vous nous dites aussi quelque chose de la France où vous êtes née, mais que vous avez très peu connue jusqu'à votre adolescence. Quel pays est-ce que c'est pour vous, la France ?
La France, c'est un très petit pays, un petit pays très étouffant, avec des gens qui sont de très très mauvaise humeur en permanence. Et c'est à peu près ce que je voyais depuis... Parce que la France a été pour moi une pension pour jeunes filles qui avait été instituée sous Louis XIV. Donc la France, qu'est-ce que j'ai connu de la France ? Les parties de bridge de mes grands-parents, l'espace vu de leur propriété qui était magnifique... Je sais rien de la France.
Et un pays, à vous lire, à la mentalité coloniale et colonialiste, il en reste quoi, à votre avis, de cette mentalité aujourd'hui ?
C'est une mentalité qui a donné de l'espace à la France à un moment donné. Ça lui a donné une respiration et ça lui a donné un idéal. Car les jeunes gens qui partaient aux colonies partaient avec une sorte d'idéal de civilisation. Ça peut paraître absolument horrible aujourd'hui.
Vous en décrivez les conséquences terribles.
Ouais. Mais les conséquences, elles sont terribles. Et politiquement, elles se sont fait entendre d'elles-mêmes. La colonisation a été souhaitée, espérée. Après, il y a eu quand même une sorte de néocolonialisme, et je pense qu'on n'en est pas totalement sorti. Et la pauvre Afrique, maintenant, est en train de subir le colonialisme chinois, ce dont personne ne parle.
Votre histoire personnelle, elle s'est inscrite dans le cadre de cette saga coloniale à laquelle vos parents ont participé. En quoi cette histoire-là, faite de départ, d'isolement, de précarité, a-t-elle fait de vous une inadaptée chronique, pour reprendre votre expression ?
C'est tout ce qu'il y a, c'est-à-dire être toujours ailleurs, n'être jamais chez soi, ne manger que des nourritures d'ailleurs que l'on baptise de noms français, c'est l'expérience extrême de la précarité. C'est-à-dire la précarité, c'est ne pas avoir d'eau, c'est mesurer l'eau quand on se douche au volume d'une vache à eau pour enlever le savon, c'est mesurer l'eau qu'on boit parce que l'eau c'est toujours de l'eau bouillie, il faut attendre toujours que l'eau soit refroidie, c'est boire de l'eau tiède. Et c'est toujours être, c'était dans l'esprit de la famille, c'était toujours passer pour une privilégiée dans un monde de gens qui souffraient.
La rébellion, elle est passée par quoi chez vous ?
La rébellion, elle a été tardive. Elle s'est passée après mon bac, pendant des années que je ne raconte pas trop dans les repères. Elle s'est passée par d'abord savoir qui j'étais. Découvrir fort tard que j'étais jolie, puisque ça, on me l'avait jamais dit. Et au contraire, on était toujours dans... Découvrir les garçons, découvrir la lecture, les livres, découvrir les grandes balades en auto interminables, c'était ne plus avoir de racines, ne plus avoir de liens, couper tous les liens.
Celle qui est moins oiseau rebelle que crâne de piaf dans cette émission, c'est la culture, Paul, et son actualité qui manque de volonté et qui se fiche un petit peu de tout. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 26 février? Such a shame, Mark Hollis, chanteur et leader du groupe culte des années 80, Tall Talk, est mort à l'âge de 64 ans. Grandes oreilles, voix hypnotique et un sens inné de la pop, le musicien britannique avait monté le groupe à Londres en 1981 avec les tubes Such a Shame et It's My Life, repris plus tard par No Doubt. Tall Talk avait offert à la génération New Wave deux hymnes immortels. Après 5 albums studio inclassables et fascinants, Tall Talk s'est séparé en 1992 et Mark Hollis s'était éclipsé de la scène musicale, ne participant qu'à de très ponctuels et rares projet. Total respect.
Fake, 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 disgusting news.
Et le meilleur du pire, les Razzie Awards, anti-Oscar remis au pire du cinéma, ont dévoilé leur palmarès annuel. Et si le prix du film de l'année tombe sur Holmes et Watson, obscure adaptation comique du classique de Conan Doyle, c'est bien Donald Trump himself qui est la star surprise de ce classement. Le président américain a reçu le prix du pire acteur pour ses performances dans les documentaires Death of a Nation et Fahrenheit 11-9 de Michael Moore. Et surtout le prix du pire duo à l'écran avec sa mesquinerie perpétuelle qui ne le quitte jamais.
I was always fascinated by Joburg. I had grown up there, I was born there.
La révolution au musée. Aujourd'hui, la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris inaugure l'exposition Museum of the Revolution, consacrée à l'œuvre du photographe sud-africain Guy Tilim, lauréat du prix Henri Cartier-Bresson 2017. Comme une plongée des grandes villes bouillonnantes africaines, les clichés de l'artiste saisissent la révolution urbaine à l'œuvre sur le continent, témoignant notamment du passage à l'ère coloniale et de l'essor du capitalisme galopant. C'est beau, on y go.
I got one word for you, maniac.
Et Laurie, sur les réseaux, la nouvelle inédite de Stephen King titrée Laurie est révélée en mai 2018 par le roi de l'horreur et désormais disponible en français gratuitement, traduite par Jean Hege, diffusée en PDF et proposée par Albin Michel sur les plateformes de téléchargement traditionnelles. La courte nouvelle raconte l'histoire d'un veuf qui obtient la charge d'un cabot qu'il ne voulait pas. Un texte écrit pour King, par King, pardon, pour Vixen, le chien de son épouse.
C'est très très mignon ça.
Et la romancière Paul Constant, invitée de Boomerang ce matin pour Mésafrique, on en parlait, où l'on comprend ce lien étroit qui existe pour vous entre la réalité et la fiction, mais aussi l'importance qu'a eu pour vous l'enfance. Il y a 21 ans, votre père vous remettait la Légion d'honneur et vous disait ceci. Madame, vous êtes une rescapée de votre enfance. Comment est-ce que vous l'entendez, cette phrase? À quoi est-ce que vous avez échappé? De quoi êtes-vous rescapée?
J'ai entendu cette phrase d'abord comme la reconnaissance de ce que j'avais subi et de ce qu'il m'avait fait subir. Et c'était comme un signe de paix qu'il m'adressait. Donc il s'est bien rendu compte que j'étais passée à travers des cercles qui n'étaient pas normaux et que je n'avais pas reçu d'aide.
Parmi les endroits qui ont marqué cette enfance, qui ont été pour vous des lieux de naufrage, il y en a un qui occupe une place singulière, c'est la Guyane, que vous évoquez d'ailleurs dans La fille du gobernador. Quelles premières images et sensations est-ce que vous gardez de votre arrivée en Guyane?
L'arrivée d'un naufrage, c'est quand on sort du grand transatlantique, qu'on monte dans une barge et que la barge sur une mer de boue vous conduit parce que le sol est trop bas, vous conduit dans une sorte de port comme ça, avec une espèce de climat très rude, et puis entre les murs d'un hôpital qui est aussi l'hôpital du bagne.
Où est-ce que vous viviez?
Dans l'hôpital.
Et qu'est-ce que vous avez vu?
Et dans l'hôpital, j'ai vu les têtes coupées. C'était le cadeau de bienvenue qui avait été fait à mon père. C'était 4 têtes qui représentaient les 4 races humaines dans des bocaux.
Vous aviez quel âge?
J'avais 5 ans et demi.
Ça veut dire que vous avez grandi, Paul Constant, avec la peur et avec l'horreur.
Voilà, c'est la peur. Ce que je ressens, la peur. Puis ensuite, plus tard, on me dira, quand il y avait des révoltes, des moments des indépendances, on me dit très simplement, tu restes pas derrière une porte, tu trouves un endroit pour te cacher si jamais la maison est forcée. Ou alors la scène que je raconte dans Mes Afriques du vampire qui vole au-dessus de mon lit et j'appelle ma mère et ma mère me dit t'as qu'à te dire que c'est un ventilateur. C'est à la fois le côté très rude de l'éducation. Mais moi, quand elle me dit ça, je sais que je ne devais pas dire qu'il y avait le vampire. Je me suis servi du vampire, si vous voulez, pour appeler à l'aide. J'étais pas dans l'innocence absolue. J'aurais pu débrouiller du vampire.
La peur, la honte aussi.
Pas vraiment la honte, je crois pas. Je crois pas, parce que j'ai toujours tout assumé. La honte pour les autres, oui.
Comment est-ce que vous êtes parvenu à conjurer cette peur?
C'est mon problème. Je ne la conjure pas. J'ai tout le temps peur. Je suis une créature tremblante. Parce que au fond, les raisons de la peur, c'est pas les raisons qui sont importantes. N'importe quoi peut faire peur. Et n'importe quoi me fait peur.
Il y a la possibilité de l'oubli, quand même?
Non, ça je ne crois pas. Je crois que la possibilité, c'est de mettre la peur ailleurs, c'est-à-dire de l'écrire, de la déporter, de la rationaliser dans les romans.
Oui, mais écrire chez vous, c'est se souvenir, Paul Constant?
Non, je ne crois pas. Je crois que c'est prendre l'histoire dont je ne peux pas me séparer et la mettre ailleurs, lui donner une autre forme, lui donner une autre intensité, chercher d'autres culpabilités et surtout pouvoir la dire et encore la dire puisque je n'ai jamais pu la dire.
Combien de temps vous a été nécessaire pour la dire justement cette histoire?
Très tard. C'est-à-dire que j'ai commencé mon premier roman, j'avais plus de 30 ans, j'avais peut-être 35 ans pour mon premier roman. Et c'est à un moment donné, quand vous êtes embourbé dans votre vie, quand votre vie n'a plus de sens, alors que tout est fait pour la rendre heureuse, à un moment donné, il faut trouver une solution. Et pour moi, la solution, ça a été d'écrire.
Et dans quel état est-ce que vous êtes quand vous écrivez?
Je suis pas bien.
Ce qui est intéressant, c'est que l'acte d'écrire, vous ne le décrivez pas vraiment comme une expérience libératrice. Effectivement, non. Vous dites qu'écrire, c'est quelque chose qui vous donne la nausée. C'est comme une perdition.
Oui.
Tous mes romans sont une mise à distance d'une réalité insoutenable pour, en la disséquant, en prendre le contrôle à des dizaines d'années. Je ne veux ni ne peux nier ce qui a été enduré, mais je dois pour ma vie le romancer, le dire à ma façon, c'est-à-dire l'écrire et plus précisément le styliser, ce qui équivaut d'une certaine façon à le mettre en musique. Il n'est évidemment pas question d'enjoliver, ni même d'adoucir, mais de faire passer la violence dans la fiction, la transporter ailleurs, l'enfermer dans un livre pour la tenir hors de moi, comme une cérémonie de désenvoûtement avec ses rituels, ses symboles et ses parcours métaphoriques. Vous parlez, Paul Constant, de désenvoûtement, comme si la fiction, par la fiction, s'opérait une sorte de magie.
Oui, oui. C'est-à-dire que la fiction me prive de mémoire. Vous parliez de mémoire. C'est lorsque les choses sont écrites que je n'en ai plus la mémoire. Je n'ai de mémoire que ce qui s'est passé dans mes livres. Ou, non, ce qui se passe dans mes livres. Et très peu d'ailleurs de mémoire du temps pendant que j'écris mes livres. Oui, c'est une cérémonie de désenvoûtement. Vous m'y faites, j'y songe. Là, vous venez de me faire prendre conscience. Absolument. Et je comprends maintenant mieux le lien que j'ai avec Toby Nathan. Et pourquoi, par exemple, je choisis Toby Nathan comme je fais une analyse avec lui. Pourquoi je l'ai choisi lui et pas un freudien? C'est que, on a un moment donné, on a besoin de parler de magie.
Mais la magie, elle a ses limites. On le sait tous.
Oui, mais enfin, les romans aussi ont leurs limites. Hein. On passe d'un roman à un autre.
Justement, quelles seraient les limites du pouvoir de la fiction?
Je crois que les pouvoirs de la fiction sont illimités, surtout si, comme moi, non seulement on se débarrasse de ce qui est si émouvant dans un livre, mais si on pense à créer une œuvre, c'est-à-dire à construire des livres en miroir les uns des autres, c'est-à-dire qu'un personnage qui m'aura fasciné, je vais encore le retrouver, l'épuiser et le rejeter. Donc j'ai un double système de défense. Le premier système de défense, c'est d'écrire et d'écrire des romans, c'est-à-dire avec une structure, avec une histoire, avec des personnages. Et puis aussi que ces romans soient en miroir les uns des autres, en reprenant des personnages ou en reprenant des lieux. Donc je pense que j'ai un double système de défense.
Et ça marche?
Ça marche très bien.
On va reparler de pouvoir, de fiction, de roman, juste après Carole King, tient So Far Away en 1971 sur l'album Tapestry. Vous êtes sur France Inter avec Paul Constant. Vous écoutez beau, hein?
So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you and there you stood. Holding you again could only do me good. How I wish I could, but you're so far away. One more song about moving along the highway. Can't say much of it. If I could only work this life out my way, I'd rather spend it being close to you. But you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're so far away. Yeah, you're so far away. Traveling around sure gets me down and lonely. Nothing else to do but close my mind. So far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. And it doesn't help to know you're so far away. Yeah.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Il y a quelque chose en elle d'assez impérial, vous savez, quelque part entre Sissi impératrice et la présidente de la République, avec son visage rond, ses grands yeux de chat, sa façon de s'exprimer précise, posée, déterminée, puis un peu fragile. Elle a un pull bleu marine et un simple bracelet au poignet. La romancière Paul Constant, invitée de Boomerang pour parler de romans, de livres. Quelle lectrice est-ce que vous êtes, tiens, vous qui êtes par ailleurs membre de l'Académie Goncourt, vorace, économe, enthousiaste, jalouse, bégueule?
Alors, avant d'être un écrivain, je suis une lectrice. J'adore ça. Et je suis pas effrayée par les centaines de livres. De toute façon, le tri se fait. Il y a des livres pour tous les lecteurs. Bon, le lecteur que la lectrice que je suis, vous voyez, je mets même lecteur au masculin. Je mets écrivain au masculin et donc lecteur au masculin. C'est même pas. Je dis que j'ai deux façons de lire. Je peux lire des livres, les apprécier, voir très vite leurs faiblesses. Et puis il y a des livres qui m'attirent et je passe du temps avec eux, c'est-à-dire que je me couche sur un canapé. Et puis quand le livre est exceptionnel, personnel, alors je monte dans ma chambre et je me mets au lit et je reste pratiquement une semaine à lire.
On parlait tout à l'heure d'un monde submergé par l'information. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment parfois qu'on est aujourd'hui submergé par les livres, qu'il y en a parfois trop?
Oui, parce qu'il y a des livres information, il y a des livres, on le voit au vilain papier sur lequel ils sont imprimés. Ils sont imprimés pour la quinzaine à venir. Il y a des livres qui n'ont pas été écrits par leurs auteurs. Il y a des livres que leurs auteurs auraient dû ne pas écrire. Il y a un manque d'ambition épouvantable dans les premiers romans. Hein, quand même, si un premier, le manque d'ambition, il vient pas des écrivains, mais quand même des éditeurs. Il y a une flopée de premiers romans, et ce qui me frappe, c'est le manque d'ambition. C'est pour ça que quand je repère des premiers romans très très ambitieux, comme les romans de Frédéric Verger ou de Paul Gréveillac, je salue à la fois l'éditeur et je salue à la fois le jeune écrivain qui décide que ça sera ça. Moi je suis pas jalouse. Parce que s'il y a un bon livre, j'en profite, mais au maximum. Moi, ce que j'aime, ce que je pratique, ma religion, moi, c'est l'admiration.
Mais avant de devenir une lectrice indépendante, on l'entend, quelle place avaient les livres dans votre famille, Paul Constant ?
Alors, énorme, parce que mon père était un très très grand lecteur. Mais énorme, je veux dire, c'était des caisses de livres. Et d'ailleurs, quand il est mort, je crois que c'est un des seuls lecteurs qui ait eu trois libraires de la procure à son enterrement. Ah. C'était comme dans une pièce de Molière, il y avait trois hommes en noir, c'était trois libraires.
Mais pourtant, dans votre famille, si j'ai bien compris, la lecture n'était pas forcément vue d'un bon œil, notamment chez
bourgeois.
Vos grands-parents.
Non, chez les bourgeois, c'était pas bien vu.
Vous étiez réservé à ceux qui n'avaient rien d'autre à faire, sans doute.
Oui. On me disait, quand on me voyait avec un livre, on me disait, est-ce que vous n'avez pas d'autre chose à faire? Et alors, il fallait vite se trouver quelque chose, comme on allait enlever l'herbe entre les dalles, l'herbe sur la terrasse, ou alors on était obligé d'aller faire des maths. La lecture, elle a toujours été indépendante parce qu'elle a toujours été interdite. Donc elle commence très tôt. Quand je lis les extraits dans les livres d'extraits de littérature, ou lorsque je lis les résumés je lisais les résumés des pièces de Racine, et parce qu'on n'avait pas le droit à la pièce entière. Donc je me faisais tout un cinéma, si je puis dire, sur la pièce. Et puis j'ai bénéficié de tous les, je suis arrivée à la lecture avec les livres de poche. Et ça a été une grande, grande révolution, c'est-à-dire que j'en lisais un par jour, jusqu'à ce que j'ai pu m'acheter mon premier livre.
Vous dites que c'était une pratique interdite. Votre père vous interdisait de lire parfois?
Oui, parce que lui, sa censure, c'était une censure sur les histoires d'amour.
Morale. Ouais.
Morale. De toute façon, c'était interdit chez les religieuses aussi. Donc c'était forcément caché, forcément personnel et forcément libre.
C'est encore un acte de transgression pour vous, la lecture ?
Oui, quand même. Dans la mesure où maintenant elle est liée au prix littéraire. Et ça m'impressionne beaucoup d'avoir une petite influence sur le devenir d'un livre.
Une très grande influence, vous êtes membre de l'Académie Goncourt.
Oui, mais vous savez, cette influence, on l'a au début de l'été, quand on s'écrit les uns les autres, et à ce moment-là, on signale un livre, on lui dit, il faut le lire. Le plus difficile, vous savez ce que c'est, mais vous devez le savoir, c'est de persuader quelqu'un de lire un livre.
C'est très très difficile.
C'est très très difficile. Plus vous le persuadez, plus le type se rétracte.
C'est pour ça qu'on prend des détours. Regardez-moi les questions que je vous pose depuis le début. Est-ce qu'on a tant parlé que ça de votre livre? C'est une stratégie, c'est une tactique, Paul.
Mais oui, parce qu'autrement, si vous le faites de front, vous recevez tout de suite l'opposition directe. Et il ne faut jamais dire, ce livre est très bon parce que vous avez quelqu'un qui est un très bon lecteur en face de vous, qui va tout de suite vous trouver les arguments pour vous expliquer qu'il est très mauvais. Si les écrivains savaient le mal qu'on dit de leur livre dans les prix littéraires, même quand ils ont le prix littéraire, en fin de compte, ils seraient... parce que c'est critiqué, mais c'est critiqué. Il suffit qu'il y en ait un qui aime pour que les neuf autres se précipitent pour le critiquer.
Vous êtes méchante, vous ?
Non, oui, je peux être très méchante. Oui.
Vous avez offert un cadeau ce matin, un texte que vous avez écrit, qui est une réécriture d'un passage écrit il y a 20 ans dans Confidence pour Confidence, je crois d'ailleurs. Peut-être que vous pouvez nous expliquer et nous le lire.
Oui. Eh bien, j'ai eu la chance, il y a très longtemps, j'ai eu la chance de caresser un rhinocéros dans un zoo. Et quand j'ai vu le rhinocéros, j'ai eu aucune appréhension, je me suis précipitée dessus, j'ai voulu l'embrasser, j'ai voulu lui mettre mes lèvres sur sa grosse carapace.
Mais bravo!
Mais je m'étais jamais posé la question de ce qui m'avait ouvert la porte parce que la cage était une grotte du rhinocéros et qui se tenait dans l'ombre près de moi. Et quand on a proposé un texte, je me suis dit que la personne dont je ne vois pas le visage, et qui devait être le directeur du zoo, qui se tenait dans l'ombre, au fond, c'est ce tu auquel je m'adresse à travers le quarto. Je m'adresse à quelqu'un pour lui expliquer qui je suis. Et là, ce tu s'adresse à vous.
Je vous écoute.
Maintenant que tu m'avais conduite dans la partie souterraine et nocturne du zoo, où il est interdit de troubler les animaux qui se repaissent d'obscurité, maintenant que tu m'avais ouvert la grille et que nous avions pénétré dans la grotte, je m'efforçais de repérer le rhinocéros dans l'ombre, redoutant qu'il fût resté dehors et que je me sois laissé enfermer par toi dans une cage vide dont j'aurais été la seule captive. Un tremblement de terre fit rouler jusqu'à nous le plus gros rocher de la falaise. L'ombre s'était décrochée des ténèbres pour se glisser à nos pieds. De profil sur la paroi, le rhinocéros était un dessin formidable. Près de toi, résigné à être dévoré comme les jeunes filles en robe blanche que dans les dédales du labyrinthe on offrait en sacrifice à un monstre cornu, je n'étais qu'un fagot de branches sèches, une brassée de feuilles vertes. Quand ma main l'effleura probablement près de l'épaule, je compris qu'il me serait impossible de le caresser. Sur le cuir, ma main était aussi aveugle que si elle avait dû reconnaître une montagne en se posant sur un roc. Le rhinocéros n'existait plus. En le touchant, ma main l'avait fait disparaître. Je devais le tirer de la nuit où il s'était enfoncé. Je m'aidais des mains, des bras, mais aussi du torse, du ventre et des cuisses, essayant de tout mon corps soulevé de sentir le volume de l'animal. Je malaxais l'argile et la boue, j'y incrustais des blocs de fer, des paquets de crins, des morceaux de bronze pour reconstituer le dos colossal, le ventre monstrueux que je n'arrivais pas à sculpter. Tu me regardais. Je progressais, accroché du bout des doigts à des failles, des saillies et des creux. Je choisissais mes prises pour ne pas glisser sur les étendues lisses, pour ne pas trébucher dans les passages rocailleux. Essoufflé, je me reposais sur une arête, craignant seulement que dans une secousse venue du centre de la terre, le rhinocéros fissuré, ébranlant comme un continent ses énormes plaques, s'effondra sur moi. Tu me regardais. Ma main filait comme le vent. Elle reconnaissait ce grand paysage de savane lorsque les fondrières craquellent, lorsque les arbres n'ont plus que croûtes et épines, lorsque les pierres calcinées roulent dans la cendre. Je retrouvais les termitières rouges qui se dressent dans le ciel. Je repérais les jardins de broussailles. Je voyais le mufle des bœufs blancs qui lèchent le sel et ma main qui brûlait avait soif. Tu me regardais. C'est au moment où je désespérais de jamais réussir que mes doigts trouvèrent l'œil et le rhinocéros s'anima. Ma main usée se referma avec douceur, emprisonnant l'œil dans la paume comme un petit animal vivant. Au fond de ses plis, l'œil humide battait. Je ne me lassais pas de palper la paupière dont je roulais entre le pouce et l'index, la bordure délicate. Et je te regardais.
Merci infiniment, Paul Constant, pour ce texte d'un érotisme brûlant. J'en suis troublé le matin à 9h40. Merci d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Mes Afriques vient de paraître chez Gallimard, que c'est une plongée vertigineuse dans le monde de votre enfance, dans le passé, dans la fiction. Du 21 au 24 mars à Aix-en-Provence, vous serez au Festival des Écrivains du Sud que vous avez créé il y a 20 ans. Le thème « Pourquoi écrire ? Comment écrire ?» Et tout de suite, c'est Dorothée Barba. Vous m'entendez, Dorothée ?